Aujourd'hui à Rencontre, une émission spéciale qui porte ce curieux titre « Est-ce que ceux qui ont la foi sont naïfs et insensés ?» On entend souvent ça, il faut être vraiment naïf pour croire. C'est fini, croire à toutes ces choses-là, vraiment. Mais commençons donc par le commencement. C'est les gens qui ont des allergies comme ça à l'égard de la foi... Il nous apporte des arguments que je vais essayer de développer, puis d'expliquer un peu. Hein. Souvent, les gens trouvent que l'Église a si souvent brûlé les hérétiques. C'est une catastrophe historique. Ça aurait toujours été comme ça. Puis ils en ont brûlé des millions. J'avais déjà lu dans Le Devoir, sous la signature de Michel Solomon, un juif roumain qui a souffert des camps de concentration, prétendre que l'Inquisition espagnole seulement en avait tué 5 millions. Vraiment, c'est absolument insensé, mais il faut se rendre compte que tout ça est exagéré de façon invraisemblable. Et alors ces gens-là, comme bien d'autres, plus calmes, là, trouvent que l'Église devrait respecter les convictions de chacun. Pourtant... L'Église a bien changé depuis le temps où ces accusations pouvaient avoir un certain retentissement quand on voit le pape entouré du Dalai Lama et des chefs de presque toutes les religions du monde entier à Assise, il l'a fait ailleurs, et qu'il les respecte, les reçoit, et il est très bienveillant à l'égard de chacun d'entre eux. Il est allé à la synagogue de Rome... manifester toute son affection profonde, sincère pour le rabbin de Rome. On dit aussi que l'Église a si souvent changé d'avis au cours des siècles que comment peut-elle se prétendre infaillible? C'est vrai qu'elle a changé d'avis parce que l'Église est toujours en train de comprendre mieux, comme toute l'humanité d'ailleurs, bien des questions, bien des problèmes. Et l'Église n'est pas faite de marbre, elle est faite avec un cœur de mer et elle change, ou parfois on dit qu'elle change trop lentement. Je serais peut-être le premier à m'en plaindre sur certains points, mais ce sont c'est pas tellement important, car cette Église sait s'adapter de façon vraiment remarquable, beaucoup mieux que bien d'autres organisations, qu'elle soit économique ou médicale, ou etc. Et on dit en troisième lieu que l'Église enseigne que Dieu est mystère. Comment peut-elle mettre en formule ce mystère de l'existence de Dieu? Alors on trouve que c'est indigne de parler de Dieu de cette façon. Alors les multiples changements bien dans l'Église, alors on parle des erreurs de son enseignement. On parle aussi de l'évolution de ses lois et que ses lois ne tiennent plus puisqu'elle peut les changer. Pensons simplement que quand j'étais jeune, c'était en fait considéré comme un péché d'immortel que de communier après avoir mangé ou de manger après avoir mangé, oui, depuis minuit le soir, la veille, même si on communiait à midi. Car il y avait des messes de midi à l'Université de Montréal quand j'étais là. Il fallait jeûner depuis minuit. Même pas une goutte d'eau. Et ces lois-là qui étaient, au fond, qui touchaient au ridicule, mais qui avaient des bases de grand respect à l'égard de l'Eucharistie. L'évolution de la société, des mentalités, a permis à l'Église de changer ses lois. Faut bien comprendre tout ce qui se passe dans l'histoire. Et ici, on parle des tâtonnements de ses recherches théologiques. L'Église n'a pas arrêté la recherche théologique. Elle n'a jamais dit aux théologiens, vous avez des manuels qui ont été écrits en je ne sais pas trop quel siècle, vous allez les apprendre par cœur et les débobiner aux élèves dans les grands séminaires, les facultés de théologie, et c'est arrêté là depuis des siècles, ça ne bouge plus, ne bougez plus rien, n'imaginez plus rien, vous êtes des théologiens, c'est-à-dire des ânes qui répètent les mêmes choses siècle après siècle. Voyons, quand même, soyons sérieux. Hein. La théologie est une science qui approfondit avec l'intelligence des vérités données. Alors, est-ce que ceux qui ont la foi sont naïfs et insensés? Bah, j'entends souvent des gens qui disent quitter l'Église, et même le christianisme pour se retourner vers le bouddhisme ou vers rien du tout même, sous prétexte toujours que l'autorité doctrinale de l'Église, que l'infaillibilité pontificale, que les dogmes, etc., etc., puis autant de choses, n'est-ce pas, qui les inquiètent. Ça les inquiète. C'est qu'ils savent même pas ce que c'est que l'infaillibilité pontificale. Je l'entendais encore à la télévision de Radio-Canada dimanche, de la bouche d'un ancien mormon s'imaginant que le pape ne pouvait pas se tromper dès qu'il ouvrait la bouche. Mais c'est incroyable, incroyable comme on est ignorant de la véritable Église. Et ces gens-là, souvent, nous parlent avec gentillesse quand même de toutes ces leurs oppositions. Ils ont le sourire aux lèvres parce qu'ils nous trouvent naïfs. Alors, ils se disent comment un esprit moderne qui a pris conscience, là, vraiment, là, de la relativité de la plupart des connaissances. Un esprit moderne sait que ses connaissances sont relatives. Mais comment un homme, une femme, en cette fin de millénaire, admettrait encore la possibilité, dans le domaine religieux, d'affirmation définitive. Alors, trois raisons semblent s'y opposer. On les entend continuellement, j'imagine que vous les entendez peut-être de la bouche de vos propres enfants ou de vos petits-enfants pour les gens de mon âge. On dit que la prétention des religions du livre, comme on dit, les religions du livre, c'est la religion juive, les grandes religions chrétiennes, en particulier le catholicisme, qui est de beaucoup la plus importante de toutes les religions chrétiennes. Et puis, certains disent l'islam aussi. Mais la prétention donc des religions du livre à posséder la vérité sur Dieu, bah, tout ça, ça a souvent dégénéré au cours des siècles en des guerres, et puis de l'intolérance, et puis de l'inquisition qui aurait tuer des millions de gens. Ben voyons, il faut lire les ouvrages et on s'aperçoit que c'est infiniment moins que ça. J'ai déjà fait d'ailleurs une émission sur l'Inquisition il n'y a pas longtemps, parlant de Torquemada. Cette prétention, disent-ils, est encore plus dangereuse. Quand un homme, comme le pape, ou un groupe d'hommes, comme l'ensemble des cardinaux et des évêques, pense avoir reçu de Dieu lui-même le pouvoir de donner la véritable interprétation des livres saints. Ça les irrite beaucoup. Mieux vaut, disent-ils, interpréter le livre saint par soi-même, chacun à sa façon, et on s'en va dans toutes les directions, et ce serait préférable. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, hein. L'histoire suffit aussi, disent-ils d'ailleurs, à démythifier ce prétendu pouvoir infaillible du pape et des évêques. Hein, ils disent, l'Église s'est tellement contredite au cours des siècles qu'on se demande comment des fidèles, sérieux, intelligents, un peu instruits, peuvent encore croire à son autorité en matière de foi et de morale. Alors on rejette tout ce que le pape enseigne sur le plan de la foi et de la morale, et l'Église n'est plus écouté, n'est plus entendu. On avorte, on divorce, on accepterait la célébration des mariages d'homosexuels. Finalement, bien, on se demande si tromper l'État sur le plan de nos rapports d'impôts, bah, c'est pas grave. Voler notre patron, bah, il a tellement d'argent. Piqué dans les magasins, c'est devenu une épidémie épouvantable. Réparer une voiture en trompant le client, etc., etc., etc. Bah, l'Église n'a pas à se mêler de ça, sa morale est trop sévère. Mais pourtant, il y a une résurgence actuellement. Les gens en ont marre des vols et de l'abus, du drame. dans lequel nous sommes plongés. Puis enfin, ils disent aussi que l'idée même qu'on puisse dire avec précision qui est Dieu. Est-ce que ce ne serait pas une injure à la transcendance de Dieu, ce, d'oser prétendre ça? Ce serait une totale méconnaissance du caractère mystérieux de Dieu. Est-ce qu'il n'est pas beaucoup plus sage de se taire plutôt que de parler de Dieu? Je me souviens, il y a des gens, même dans l'Église, qui disaient que mieux valait ne pas parler de Dieu, car tout ce qu'on pouvait dire de Dieu était faux. Si dans un sens, c'est vrai. Maître Eckhart l'a déjà dit, mais il faut en parler quand même. Avec nos mots, avec notre pauvre intelligence, mais aussi avec la révélation et les connaissances acquises. C'est Jean Guéhenno, l'Académie française, qui est mort à Paris en 1978, donc il y a 20 ans. Il disait, je comprends que Dieu soit l'objet d'une recherche. Bon. Mais je ne comprends pas qu'il soit l'objet d'une possession. Il me semble impossible, sans blasphème, d'appeler Dieu ce que je crois. Et qui n'est, je le sais bien, qu'une pensée, une construction, une création de l'homme. Il dit ça dans son livre « Ce que je crois », dans la grande collection « Ce que je crois » publiée chez Grasset. Ce livre-là est paru en 1964, c'est à la page 48. C'est le grand maître, ou plutôt grand maître adjoint de la grande loge de France, vous savez, les francs-maçons, Jean Verdun, dans un livre « Si nous parlions de Dieu » publié il y a... il y a 10 ans, là, au centurion. Il dit, j'entre parfois dans une église pour écouter le sermon, et j'en écoute à la radio. J'entends un prêtre parler de Dieu comme s'il l'avait rencontré. Dieu est ceci, il pense cela, il fait ceci, il veut cela. Je sais bien que ce prédicateur interprète les Écritures, mais le ton si assuré et si définitif me gêne. Je suis au contraire très à mon aise dans une réflexion qui part d'un symbole. Par exemple, celui du grand architecte. Hein, on connaît ça chez les francs-maçons. Ils parlent du grand architecte. Hein. Par exemple, celui du grand architecte, symbole de la finalité du monde, dit Jean Verdun, grand maître adjoint de la Grande Loge de France. Puis Jean-Pierre Chevènement, qu'on voit souvent aux Nouvelles françaises, qui dit « Je ressens trop la religion chrétienne comme un appareil de dogme ». Et beaucoup de gens ont cette impression que la religion, c'est une question de dogme, et non pas la connaissance du Christ, l'amour pour le Christ, l'amour pour ce qu'il dit, un amour débordant qui répond à son amour et qui fait que nous avons la révélation de l'amour même de Dieu, puisqu'il est Dieu, et qu'ainsi la Trinité nous est révélée et que nous vivons une vie trinitaire. C'est ça la religion. Ça nous porte à aimer tous ceux qui nous entourent, notre prochain, puisque le Christ est là. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites, dit Jésus. Et ces paroles sublimes sont tellement dévorantes dans l'Évangile. C'est ça, la religion. Mais François Jacob, cet athée, prix Nobel, 1965, j'avais son livre, mais je l'ai donné à un ami athée parce que je trouvais qu'il n'y avait à peu près rien là-dedans. Ben, je veux pas insulter François Jacob, prix Nobel quand même, mais il dit « Je ne supporte pas le comportement des gens qui ont la certitude de posséder la vérité. C'est au nom de cette certitude que se commettent les plus grands crimes, dit-il. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe actuellement dans certains pays. » Alors on lui pose la question... C'est André Sève, ce prêtre, qui lui pose la question. « Vous pensez que la foi d'un croyant peut l'empêcher de dialoguer avec un non-croyant? » Il dit « Je pense qu'un croyant est en danger de fanatisme, d'intolérance, au nom même de ses certitudes qui lui donnent des réponses pour tout. » Mon Dieu, quand on pense à nos missionnaires, toute la bonté. « Le scientifique, dit-il, au contraire, est quasiment forcé d'être modeste pour deux raisons. » C'est risqué de dire ça, à mon sens. Il ajoute « D'abord, la recherche scientifique s'attache à des questions extrêmement limitées. Elle ne se demande pas « qu'est-ce que la vie ?»« d'où vient la vie ?» mais, par exemple, « comment le sang circule-t-il pour s'oxygéner ?» Cela nous amène à des vues plus générales, mais ce n'est pas notre recherche. Et nous acceptons d'ignorer beaucoup de choses dans des domaines voisins du nôtre, et même dans notre propre domaine. Et deuxièmement, ce qui me paraît définir encore plus l'esprit scientifique par rapport à la foi, est en une révélation, et donc la certitude de posséder la vérité absolue, totale et intangible, c'est qu'un chercheur scientifique peut constamment tout ficher en l'air par des raisonnements et des expériences, et tout flanquer à la poubelle et repartir à zéro. Mon Dieu, que c'est pénible de lire des choses comme ça. C'est triste. mais c'est comme ça. Vous allez voir, je vais développer ça gentiment. Je ne veux pas insulter personne. Rappelons qu'on peut être simultanément très convaincu dans sa foi, mais très tolérant vis-à-vis des personnes qui ne partagent pas les mêmes convictions. Quand je vous raconte la vie des saints, combien de fois des saints qui sont très sévères pour eux-mêmes sont pleins d'une charité, d'une miséricorde et d'une tendresse au confessionnal ou avec des gens qui ne partagent pas leur foi. D'ailleurs, je vous ai fait une émission là-dessus le 20 février dernier. « Toutes les religions se valent-elles ?» J'avais expliqué ça en bonne partie. C'est l'émission numéro 408. Je les signale, aujourd'hui, les émissions, ça vous permet, si vous les avez enregistrées ou si vous les avez achetées auprès de Marc Alexandre, de vous y référer au besoin. Alors, le fanatisme, mais c'est souvent le fait de personnes qui crient d'autant plus fort qu'elles sont moins sûres de ce qu'elles avancent. Il y a des gens ignorants qui crient. Ils ne savent pas, mais ils crient. Ces personnes-là éprouvent le besoin de s'appuyer sur la foi de beaucoup d'autres co-religionnaires. Pourquoi? Ben pour pallier la pauvre faiblesse de leur propre croyance. Ils sont insécures, comme on dit, et il faut qu'ils affirment. Mais par contre, l'homme convaincu, la femme convaincue, ne se trouve pas désarçonné par la première objection venue. Bah, si tel est notre cas, là, faudrait pas avoir peur, me semble, de manifester les convictions religieuses qui nous animent. Que de fois j'entends dire, « Ah, moi, quand les témoins de Jéhovah sonnent à ma porte, je vous leur ferme la porte au nez, puis je leur dis de déguerpir, puis etc. » Mais c'est épouvantable. C'est épouvantable, à mon avis, si on a le temps de les recevoir. Il me semble qu'on ne doit pas se croire obligé pour mieux respecter ceux qui ne partagent pas notre foi et avec lesquels nous entrons en dialogue, de nous présenter à eux comme des êtres peu sûrs d'eux-mêmes et qui n'osent rien dire. Mais non, il faut savoir dire à un témoin de Jéhovah, de relire avec lui ce qu'on appelait le dernier évangile à la messe d'autrefois de Saint-Pie-V, c'est-à-dire le prologue de l'évangile de Saint-Jean. Et puis toutes sortes d'affirmations de la divinité de Jésus, parce que les témoins de Jéhovah n'y croient pas. Mais il faut se préparer, il faut lire des ouvrages. Il y a un très bel ouvrage que je vous ai signalé sur les témoins de Jéhovah, qui est paru récemment. La foi, je vous l'ai déjà dit, c'est une certitude. Et la tolérance ne suppose pas forcément qu'on est sceptique. On peut être certain, et en même temps, être tolérant, très tolérant. Je ne crois pas que quand le pape reçoit le Dalai Lama, il manque de certitude dans sa foi. Il est toujours sûr de sa foi. Mais il a beaucoup d'affection pour le Dalai Lama. On a vu le Dalai Lama reçu ici à la cathédrale par le cardinal Grégoire. C'était la même chose. Vous pouvez écouter, si vous l'avez, l'émission du 22 avril dernier, « La foi est-elle un pari ?» C'est la numéro 451. On peut chercher maintenant comment un catholique peut continuer à croire à son Église malgré les erreurs qu'elle a commises en cours de route? Je répondrai ensuite à la troisième objection en rappelant que par ses définitions dogmatiques, l'Église n'entend pas du tout canaliser la richesse inépuisable du mystère du Christ, pas du tout. L'Église est toujours en route. Autrement, quand je vous disais, elle dirait aux théologiens, apprenez vos manuels par cœur puis récitez-les aux élèves. Pensons aux multiples changements dans l'Église. Il y en a eu beaucoup. Il va y en avoir d'autres. Parce que l'Église est vivante. Elle vit non seulement de l'étude de l'Écriture, c'est-à-dire de la parole de Dieu, mais elle vit aussi d'une grande tradition avec un T majuscule, au creux de laquelle l'Esprit-Saint la guide. Tous les textes qui viennent du Vatican ne se présente pas du tout à nous avec la même solennité. Il y a des textes moins importants, des textes plus importants. On verra ça tout à l'heure. Mais les catholiques n'ont pas à se voiler la face devant toutes les erreurs commises par l'Église au cours des siècles, puis de se mettre à demander pardon à tout bout de champ, ni devant les changements parfois spectaculaires des idées de l'Église, puis de ses comportements. Comme je vous le disais, elle n'est pas sculptée dans une marque, c'est pas un bloc d'assise, elle est en vie, l'Église. Alors, On pourrait aborder les erreurs de son enseignement. Au cours des siècles, les hommes d'Église se sont souvent trompés. Les papes ont parfois pris des décisions qui se justifiaient pas du tout. Même si, aux yeux de l'historien, elles s'expliquent jusqu'à un certain point par les circonstances culturelles de l'époque. J'insiste toujours là-dessus et j'y reviens. Faut se mettre dans le temps. Je vous donne des exemples dont j'ai déjà parlé en ondes à Rencontre spirituelle. Premièrement, le lancement des croisades contre l'islam. Pourquoi ces croisades? C'est qu'à ce moment-là, les musulmans empêchaient l'accès des chrétiens d'Europe au tombeau du Christ. Je vous ai tout développé ça le 10 janvier 96, l'émission 182 sur les croisades. C'était dramatique pour les Européens de ne pas pouvoir aller au tombeau du Christ. C'était une catastrophe pour eux. C'était un pèlerinage extrêmement important. C'était comme ça. C'était dans la mentalité des gens. Puis la répression des hérésies au Moyen-Âge, lorsqu'on ne concevait pas qu'un hérétique pouvait être de bonne foi, c'était dans la mentalité du temps. Je vous ai fait le 16 septembre dernier, 97, une émission, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur Torquemada et l'Inquisition. Je vous recommande d'ailleurs de lire à ce sujet l'ouvrage de Jean-Pierre de Dieu, l'Inquisition. C'est un petit livre, je ne saurais trop vous le recommander, publié par Fides et par les éditions du Cerf à Paris. C'est dans la collection Bref que vous connaissez peut-être. C'est 125 pages. Lisez ça attentivement. Prenez des notes. Vous allez tout comprendre à peu près de l'Inquisition. C'est merveilleux. Jean-Pierre de Dieu, D-E-D-I-E-U, le de Dieu, l'Inquisition. Et alors, il y a la suppression aussi de la Compagnie de Jésus par le pape Clément XIV en 1773. On a presque tous entendu parler de ça, hein. Mais cette suppression des Jésuites, elle ne s'est maintenue que dans les pays qui n'étaient pas obligés d'obéir au pape. Comment ça? Oui, en Allemagne protestante puis en Russie orthodoxe, on a maintenu les Jésuites. Étrange, hein? Et parce qu'eux, ils voulaient pas obéir à des lois pareilles, parce que les Jésuites rendaient des grands services. Et le coup de frein brutal que Pie XII, que j'aime pourtant Pie XII, mais c'était un des événements dramatiques de sa vie, ça, en 1954... Il a arrêté brutalement l'expérience des presses ouvriers. Je me souviens comme ça m'avait blessé. Il leur a été demandé aux presses ouvriers d'interrompre immédiatement leur travail professionnel d'ouvrier dans les milieux ouvriers. Et pourtant, j'en avais interviewé déjà un prêtre ouvrier comme ça en 1963-64, Paul Vialet. Quel homme admirable, parce qu'il en restait quelques-uns qui vivaient dans les milieux ouvriers. À plus forte raison, peut-on penser que les évêques ont souvent adopté aussi des mesures qui n'étaient pas directement inspirées par le Saint-Esprit, hein? Pensez quand l'évêque de Nantes a ordonné à Saint-Grignon de Montfort de démolir le calvaire de Pontchâteau en 1710. Je vous ai raconté ça le 28 avril dernier. Il l'avait construit avec enthousiasme, avec les catholiques de la région. Puis il y a aussi l'évêque de Belley, là, qui a commandé au curé d'Ars, je vous ai raconté ça le 4 mars 97, il a commandé au curé d'Ars de remplacer Catherine Lassagne, qui était son principale assistante, par des religieuses à la tête de son école de la Providence en 1847. Or, les deux saints, le saint curé d'Ars puis saint Grignon de Montfort, ben, ils ont obéi. Puis ils ont eu raison de le faire, mais évidemment, nous autres, on n'est pas obligés de penser que la décision de leurs évêques était la meilleure. Bon, venons-en maintenant à l'Église et la Bible. L'enseignement courant de l'Église a comporté des erreurs énormes dans l'interprétation de la Bible. Des erreurs dues, la plupart du temps, aux ignorances de l'époque en matière scientifique. On ne peut pas demander aux gens d'il y a 5 siècles de savoir tout ce qu'on sait aujourd'hui. Et d'accepter comme ça très facilement des nouvelles découvertes qui semblent absolument aberrantes et incroyables. J'avais lu, moi, il y a 50 ans, un petit livre que je me suis acheté et qui m'a énormément intéressé au point que je l'ai relié moi-même. C'est, mon Dieu, je l'ouvre là, c'est le livre de Horaeus, H-A-U-R-E-T, Origine, Genèse 1 à 3. avec une préface de Fernand Coppens, c'est professeur à l'université de Louvain. C'est paru en 48-50. C'est un livre absolument merveilleux pour l'époque, extrêmement avancé et très intéressant pour comprendre l'Écriture sainte et tout ce que l'Église, finalement, transforme dans son enseignement, car l'enseignement de l'Église est très, très, très changé par rapport à toutes ces connaissances scientifiques que nous avons aujourd'hui. Alors, nous allons faire une pause, et je vais continuer tout à l'heure. Je reviens à l'enseignement courant, donc, de l'Église, qui a comporté d'énormes erreurs dans l'interprétation de la Bible. Des erreurs dues, comme je vous ai dit, la plupart du temps, aux ignorances de l'époque en matière scientifique. Prenez l'exemple, très classique, on y revient tous les jours. Quand est-ce qu'on va arrêter? Au XVIe siècle, l'Église a condamné Galilée. Bon, quelle catastrophe. Je vous ai fait une émission, je regarde de dire, le 8 janvier 1996, je vous le redis, c'est pour ceux qui ont ça dans leur collection, il y en a qui enregistrent, d'autres qui achètent les cassettes. Alors, le 8 janvier 1996, Galilée. J'ai fait ça. Alors, l'Église a condamné Galilée parce que l'Église, elle prenait à la lettre le récit du livre de Josué qui relate, vous vous souvenez, Josué, il arrête momentanément le soleil afin de permettre aux troupes de Josué là de poursuivre leur avance victorieuse dans une guerre. Vous trouvez ça dans le livre de Josué, chapitre 10. Alors, on n'avait pas encore compris, dans ce temps-là, qu'il fallait pas chercher dans la Bible une description scientifique du monde. Il y avait beaucoup de gens qui l'avaient compris, mais d'autres l'avaient pas compris. Parce qu'il y avait beaucoup qui ne l'avaient pas compris, le pape hésitait. Parce que le pape, lui, il l'avait compris. C'était un ami de Galilée. On avait, dans certains milieux, chez des cardinaux, certains cardinaux un peu arrêtés, et puis chez certaines personnes, puis beaucoup de monde dans la masse des gens, beaucoup de laïcs, on avait surtout du mal à penser qu'en venant sur Terre, le Fils de Dieu ait pu s'incarner sur une planète qui ne se trouvait pas au centre de l'univers. Il serait venu sur une planète qui était perdue, comme dirait Pascal, au siècle suivant, perdue, cette planète, notre Terre, dans un canton détourné de la nature. Je vous ai parlé de Pascal le 24 novembre dernier. C'est un problème que j'ai essayé d'expliquer, donc, le 8 janvier 96, j'espère y être parvenu, c'est qu'il faut bien comprendre que Copernic, qui était un chanoine plusieurs années plus tôt, avant Galilée, avait dit la même chose, mais il n'a pas été condamné. Et Galilée est arrivé à un moment donné où on a cru bon de le condamner, mais on ne l'a pas condamné aux galères. Ils l'ont mis dans une maison avec tous les services possibles. Il n'a pas été maltraité, mais c'est tragique ce qui lui est arrivé. C'est pénible, mais c'était dû au fait que cette nouvelle façon de voir l'univers gênait beaucoup de gens. L'Église a longtemps enseigné que le monde avait été créé en 6 jours aussi. Elle n'a changé d'avis qu'après avoir assimilé les découvertes de la géologie, puis de la paléontologie. Et on s'en rendu compte que les textes de la Genèse étaient des textes à la fois mythiques, qui viennent d'anciennes cosmologies, mais qui contiennent des vérités extrêmement importantes. Et la première, c'est que l'homme est créé à l'image de Dieu et que la femme est un être humain. La femme n'est pas rien du tout. Elle est un être humain. Elle est à l'égal de l'homme. Ils sont libres en plus de ça. Ils peuvent commettre des fautes. Ils peuvent rejeter Dieu. Ils sont créés libres. C'est ça l'enseignement essentiel de la Genèse. Et l'Église a cru longtemps aussi que le livre de Jonas et celui de Job étaient historiques. Hein? Je me souviens, on se posait des questions, comment il a pu passer 3 jours dans une baleine, mais la Bible ne dit même pas une baleine pour Jonas, elle dit un monstre marin. Mais tout ça, ce sont des figures, des contes, comme les paraboles de Jésus qui sont des contes. On n'est pas obligé de croire que ce que Jésus raconte dans ses paraboles, c'est historique. Alors c'est la même chose pour le livre de Jonas et le livre de Job. Alors on a cru que c'était historique du fait qu'on n'avait pas repéré dans la Bible l'existence de plusieurs genres littéraires, c'est-à-dire le genre... Il y a des genres littéraires, il y a des textes historiques, il y a des textes légaux, il y a des textes poétiques, il y a des textes comme des contes. Il faut savoir quel genre littéraire a tel texte. Imaginez que Saint Jérôme pense que les Juifs sont à jamais maudits pour avoir crié le Vendredi Saint. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, dans Matthieu 27. C'était répété, même quand j'étais jeune, on nous répétait ça, je me souviens. Et quand j'arrivais avec ça chez moi, ma mère était horrifiée, mon père aussi disait, voyons, Jésus a dit en croix, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est d'ailleurs, on le retrouve dans les pères de l'Église, Saint Léon, dans les premiers siècles. Il rappelle cette prière de Jésus sur la croix. Mon père avait un ami juif, et il ne tolérait pas qu'on puisse dire des choses comme ça. D'autant plus qu'il n'était pas tellement attaché à l'Église, mon père. Et s'appuyant sur une parole de l'Évangile, « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, hein? L'Église a longtemps cru que le nombre des damnés était considérablement plus important que celui des sauvés. » Or, on nous rapporte les paroles de Saint-Vincent de Paul. Monsieur Vincent, en effet, faisait encore sienne cette espèce de réflexion pessimiste de l'au-delà. Hein. Il disait, « Le nombre est grand de ceux qui entrent par la porte large qui mène à l'enfer. » Puis il disait aussi, « Je crois que la moitié du monde, voire même les trois quarts, seront damnés pour le péché de paresse. » Pauvre curé d'Ars, les saints ont le droit, vous savez, de dire des choses comme ça, sans qu'on leur en tienne grief. Bah, il a vécu dans la première moitié du 19e siècle. Il disait des choses comme ça. Mais si vous voulez en avoir le cœur net, là, je vous recommande de trouver dans une bibliothèque, parce que ça coûte très cher, c'est le livre de Jean de Lumeau, « Le péché et la peur ». La culpabilisation en Occident, du 13e au 18e siècle, publié chez Fayard. C'est un immense volume. Ça a plus de 700 pages. Et vous trouverez là, dans ce livre, paru il y a déjà 15 ans, ou presque, à la page 315 et suivante, 315 à 338, vous allez avoir des clarifications sur ce problème, à savoir si l'enfer est rempli de monde, et le ciel presque vide. C'est très important, je crois, de mettre le doigt là-dessus. Jean de Lumeau le fait très bien dans « Le péché et la peur », paru chez Fayard. Puis l'évolution des lois de l'Église, il faut bien parler de ça. Hein. Il y a bien des domaines où la pratique ecclésiale dépend des circonstances concrètes où elle est amenée à prendre des décisions. Par exemple, le prêt à intérêt. Je vous en ai parlé lundi en parlant de Saint Siméon Stylite, qui vivait sur sa colonne au 5e siècle. Il acceptait intelligemment le prêt à intérêt, lui. Il disait qu'il fallait prêter à 6%, pas plus. Mais pourtant, le prêt à intérêt a été condamné au Moyen-Âge. Il est considéré aujourd'hui par l'Église comme un moteur légitime de l'économie. Et c'est normal, ça fait fonctionner l'économie, un certain intérêt, pas les intérêts de 20-22% comme on nous charge parfois. La discipline du sacrement de pénitence, aussi sacrement de réconciliation, ça a connu bien des variations depuis les débuts de l'Église. Il y a même aujourd'hui des confessionnaux d'accueil, il y en a un à l'oratoire, on peut s'asseoir avec une petite lampe, ça existe. Mais il y a surtout la façon de comprendre le sacrement de pénitence comme un sacrement de réconciliation, d'amour de Dieu, où Dieu se révèle dans tout son amour et sa miséricorde, où on approche du prêtre non pas en tremblant, mais avec joie, comme avec pour retrouver nos ailes, quoi, et pour replonger dans l'amour du Christ, qui nous pardonne par la bouche du prêtre. Oh, il y aura tellement à dire sur le sacrement de la réconciliation. Je vous ai déjà fait, d'ailleurs, une émission là-dessus. Et le sacrement de confirmation, qui n'est plus donné aujourd'hui à des enfants de 8 ans, comme on le faisait encore il y a quelques années, hein, mais à 13 ans maintenant, comme le bar mitzvah chez les Juifs, et comme toute législation humaine, on peut dire que la législation du droit canon, dont je vous ai parlé un peu hier à l'occasion du grand canoniste, le le patron des canonistes Saint-Raymond de Peignafort, bien, la législation du droit canon est en constante évolution aussi. Tout évolue, les choses évoluent. Hein. Puis les tâtonnements de la recherche théologique, ça fatigue bien du monde. Mais pourtant, même à l'intérieur de l'Église, mais pourtant, il y a bien des domaines où l'Église hiérarchique encourage les exégètes et les théologiens à chercher. Et elle laisse l'Église la plupart du temps cette recherche ouverte, c'est-à-dire qu'elle n'intervient pas pour clore le débat, sauf dans les cas évidemment graves. C'est très important de savoir cela, que l'Église encourage les théologiens à faire des recherches. Puis les livres d'exégèse, d'études de la Bible, nous montrent les multiples interprétations possibles de certains passages de la Bible, saviez-vous ça aussi? Puis les livres de théologie nous montrent les différentes façons dont on s'est représenté au cours des siècles le problème très grave de l'efficacité rédemptrice du sacrifice de la croix. C'est une question extrêmement grave. Beaucoup de gens sont attachés à ça. C'est le langage de saint Anselme. Ça surgit surtout avec saint Anselme, ce grand théologien du XIIe siècle. Mais c'est pas le langage qu'on préfère aujourd'hui, ça. Et ce qui dit ça, c'est l'abbé Pierre Descouvemont, dont je m'inspire dans son fameux guide des difficultés de la foi catholique. Je ne saurais trop vous recommander ce gros livre. Procurez-vous ça, Guide des difficultés de la foi catholique, paru aux éditions du Cerf il y a plusieurs années, qui est toujours en vente. C'est comme une bibliothèque, ça. Vous avez 36 chapitres, je crois, où on explique toutes ces questions-là avec beaucoup d'intelligence. Et l'abbé Pierre Descouvemont ici dit bien que le langage de saint Anselme au sujet de l'efficacité rédemptrice du sacrifice de la croix, ben ce n'est pas celui que nous préférons aujourd'hui. Je vous ferai d'ailleurs, avec l'abbé Pierre Descouvemont, une émission le 27 février, le mois prochain. Le dernier jour du mois de février. De nos émissions. Il est arrivé qu'un pape intervienne aussi auprès de théologiens pour mettre fin à des querelles stériles. Hein. C'est en 1607, le 21 août. Je le signale parce que c'est de là que vient la supposée querelle entre dominicains et jésuites. Vous savez, c'est Paul V qui demande aux dominicains appelés banésiens et aux jésuites appelés molinistes de ne plus se traiter réciproquement d'hérétiques. C'est saint François de Sales qui avait fait une démarche dans ce sens auprès du pape. Hein. Parce que les banésiens, les disciples de Banèse, insistaient davantage sur le rôle déterminant de la grâce dans l'œuvre de notre salut, au risque de tomber dans l'idée que les hommes sont prédestinés au ciel et à l'enfer. Puis là, les jésuites, les disciples de Molina, eux, ils insistaient sur le rôle essentiel de la liberté humaine dans la vie chrétienne. Mais là, ils risquaient de ne pas mettre suffisamment en valeur la gratuité absolue de notre salut, de notre libération totale pour l'éternité. Et c'est par grâce, dit saint Paul, que nous sommes sauvés. Et nul ne doit pouvoir se glorifier. Mais encore faut-il bien comprendre et faire la juste part des choses. De toute façon, il ne faut pas être plus catholique que le pape. Les chrétiens doivent apprendre à distinguer les documents dans lesquels l'Église engage son infaillibilité. Les définitions dogmatiques dont je vais vous parler plus loin demain. Et tous les autres actes du Saint-Siège. Les actes du Saint-Siège, mais parmi ceux-ci, il faut de nouveau distinguer les écrits du pape, ceux des divers organismes qui dépendent du pape, qu'on appelle des congrégations, des ministères, des secrétariats, etc., dont il se sert, le pape, pour gouverner l'Église. Puis il va sans dire que tous ces textes n'ont pas la même autorité. Pour ce qui est des actes du pape, là, on distingue, je vous le dis rapidement, parce que la plupart des gens ne connaissent pas ça. Dans les actes du pape, on distingue d'abord les constitutions. Puis deuxièmement, ce qu'on pourrait appeler les épîtres, les épistolés. Il y a les épîtres, ou les lettres, si vous voulez, encycliques, à destinataire précis, sans contenu dogmatique. Elles sont relativement rares. Hein? Puis il y a les épîtres, ou les lettres apostoliques, les encycliques apostoliques, écrits de circonstances relatifs à un événement exceptionnel, puis on ne peut pas appeler ça vraiment une encyclique. Il y a les épîtres qui traitent d'une question doctrinale ou morale à l'intention du clergé puis des fidèles d'un diocèse à l'occasion d'un événement particulier, comme la lettre de Paul VI au cardinal de Québec, le cardinal Roy, en mai 71, à l'occasion du 80e anniversaire de l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII. Et enfin, il y a les épîtres aux conférences épiscopales, c'est-à-dire des lettres que le pape adresse à des groupes d'évêques. Puis il y a les lettres décrétales pour les canonisations, par exemple. Il y a les lettres encycliques, qui ont des textes de caractère très solennel, ça, et de portée universelle, les lettres encycliques, dans lesquelles le pape développe un point important de doctrine ou de morale. Pie XII en a signé 23. Jean 23 en a signé 7, Paul 6, 5. Et Jean-Paul II en a signé énormément. Les lettres apostoliques, qu'on appelle les motu proprio, vous avez peut-être entendu ça, hein, la plupart d'entre vous, ça veut dire, motu proprio, ça veut dire de ma propre initiative, donc des lettres apostoliques de la propre initiative du pape qui contiennent une ordonnance d'ordre légal ou administratif. Puis il y a les chirographa, je ne connaissais pas ça, ça c'est les lettres écrites de la main même du pape et par lesquelles il veut délivrer un avis très personnel. Donc, il y a 9 séries d'actes par lesquels le pape s'exprime d'un point de vue institutionnel, qui s'ajoute à tout ça, là, les allocutions, les radiomessages, les messages écrits, les messages télévisés, des lettres consistoriales, des messages de remerciement, des homilies, des exhortations, etc., etc. Et c'est le pape Paul VI qui a inauguré la coutume d'élaborer des exhortations sur la base des travaux d'un synode. Oh boy, réunion d'évêques du monde entier qui, depuis Vatican II, se tient à Rome tous les 4 ans. Puis il y a les congrégations, quant à elles, qui publient des décrets aussi. Hein? Ça, c'est l'espèce de ministère qui entoure le pape. Il y a des réponses, des résolutions, des instructions, des notes, des directives, des déclarations. Ces actes-là peuvent être approuvés par le pape en forme commune ou en forme spéciale. Dans ce dernier cas, quand c'est en forme spéciale, elles ont une force un peu plus contraignante. Puis là, le décret contient en général une nouvelle norme, tandis que l'instruction puis la déclaration, eux, expliquent simplement de manière détaillée la façon d'appliquer une disposition législative. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de textes, et elles n'ont pas le poids qu'on pense. Par la diversité même de ces interventions, le Saint-Siège nous invite à ne pas accorder la même importance à une lettre encyclique signée par le pape, une instruction là, qui est signée par le préfet de la Congrégation de la foi. C'est le cas de le dire, « Ne soyons pas plus catholiques que le pape. Notre amour de l'Église ne peut qu'y gagner. » Pour clore cette émission sur ce que ceux qui ont la foi sont naïfs et insensés, j'aimerais vous rappeler que j'ai eu la chance, la grande chance, le bon Dieu est bon, de me permettre à la télévision de Radio-Canada d'interviewer des tas de gens. J'ai fait 750 émissions à rencontre, plus toutes sortes d'autres émissions où j'ai eu la grande grâce de rencontrer des gens brillants, intelligents et merveilleux qui avaient la foi. Je vous en nomme quelques-uns. Pierre Boudot, spécialiste de Nietzsche. Oui, de Nietzsche et de Sainte-Thérèse d'Avila, qui est mort maintenant. Professeur à la Sorbonne. Jean Delumeau, dont je viens de vous parler. Quel homme savant, merveilleux, Jean Delumeau. Alain Besançon, grand spécialiste des questions politiques et sociales. Marcel Auclair, la fameuse Marcel Auclair. Quelle foi ardente qui a écrit une vie admirable de Sainte Thérèse d'Avila. Après avoir cherché pendant 25 ans au sein de toutes sortes de religions où elle devrait aller, elle a trouvé à travers les évangiles que c'était le Christ qu'elle cherchait, puis elle s'est convertie ardemment et est devenue une catholique admirable. Olivier Clément, cet orthodoxe russe, mais français de nationalité, Olivier Clément, que j'ai bien connu et qui a une foi ardente, lumineuse, profonde, qui est professeur à Paris, au grand séminaire russe orthodoxe. Xavier Le Pichon, l'un des plus grands spécialistes des océans et des profondeurs de l'océan. Xavier Le Pichon, un homme de prière, d'oraison, qui vit auprès de Jean Vanier où il élève ses enfants. Oui, Xavier Le Pichon, l'un des plus grands savants du monde. Christian Montenat, un autre spécialiste des questions de la Terre, de l'univers. Et je pense au fils de Georges Bernanos que j'avais rencontré, puis à Maurice Clavel, cet homme qui s'est converti, qui travaillait pour le Nouvel Observateur, et, ah mon Dieu, qui a écrit « Dieu est Dieu, nom de Dieu ». Et puis Paul Ricoeur, très grand savant, très grand philosophe, très grand penseur, Paul Ricoeur. Nadia Boulanger, la grande musicienne, professeur, éminente Nadia Boulanger, hein.
Ah, quelle femme de foi qui communiait tous les jours. Et Jean-Louis Barrault, qui était si ravi qu'on lui permette de parler du Christ qu'il a annulé d'autres rendez-vous. Jean-Louis Barrault qui avait une foi débordante, beaucoup plus qu'on pense. Et Jean Guiton, qui vit toujours, qui a passé 90 ans, quel homme savant et quelle foi admirable. Et Jean Lacroix, le philosophe, et Denis Vasse, le psychanalyste, et Pierre-Emmanuel, le grand poète, et Pierre de Boisdeffre, et Jacques Ellul, ce grand et éminent protestant, et Régine Pernoud, grande spécialiste du Moyen-Âge, grande historienne, et André Mandouze, puis même Georges Dumézil, qui m'a confié qu'il avait la foi. Georges Dumézil, qui connaît 40 langues. Ah, c'est un homme extraordinaire. Mais si vous voulez en savoir plus, achetez-vous un livre paru il y a longtemps, je ne sais pas si on le trouve encore, paru chez Stock, de Christian Chabanis, malheureusement qui est décédé bien jeune. Dieu existe, oui. Alors vous avez les réponses de toutes sortes de gens merveilleux, comme André Lichnirovitch, professeur au Collège de France, Charles Fehrenbach de l'Institut, Louis le Prince Ringuet de l'Académie française, Pierre-Paul Grasset de l'Institut, puis Jacques Soustelle, ancien ministre, et puis, oh mon Dieu, Françoise Dolto, que tout le monde aime bien, je pense, hein, grand psychanalyste, Françoise Dolto. Il y a les paroles très intéressantes dans l'Apologia pro vita sua de John Henry Newman, qu'après avoir, dit-il, vigoureusement protesté contre les prétentions de l'Église romaine à l'infaillibilité, il a écrit en 1864, 20 ans après sa conversion au catholicisme. Écoutez bien ça. Il passait pour l'un des hommes les plus cultivés de son temps. Hein. Il est devenu catholique en 1854 ou 44. Hein. Supposons donc que la volonté du Créateur soit d'intervenir dans les affaires humaines et de faire en sorte que la Terre garde de lui une connaissance assez définie et assez claire pour résister à la violence du doute humain, du scepticisme. Dans ce cas, sans prétendre que ce soit le seul moyen, je pense cependant qu'il n'y aura rien de surprenant si le Créateur trouve bon d'introduire dans le monde une puissance qu'il aura investi de l'infaillibilité en matière religieuse. Une telle institution sera un moyen direct, immédiat, actif et prompt de faire front à la difficulté. Ce sera un instrument approprié aux besoins. Et lorsque je m'aperçois que c'est là précisément la prérogative que revendique l'Église catholique, non seulement je n'éprouve aucune difficulté à en admettre l'idée, mais je trouve qu'elle correspond si bien à ce qui était nécessaire, qu'elle se recommande à mon esprit. Je suis amené à parler de l'infaillibilité de l'Église, comme d'une institution providentielle, bien adaptée à sa fin, par la miséricorde du Créateur. Elle est destinée à conserver la religion dans le monde et, écoutez bien ça, à restreindre cette liberté de pensée qui est évidemment en elle-même l'un des plus grands de nos dons naturels, mais qu'il faut sauver du suicide ou le conduise ses propres excès. Car la liberté qui opère avec excès se perd, oui. C'est un drame terrible. Je vous rappelle que l'Église a béatifié cette année Frédéric Ozanam, qui était professeur à la Sorbonne, qui était un homme profondément intelligent. Il faut lire d'Ivan Gobry, Frédéric Ozanam ou La foi opérante chez Téqui, puis le Frédéric Ozanam, pionnier de son époque, précurseur de la nôtre, de Louise Camus-Marzin chez Pierre Téqui, puis le Frédéric Ozanam, le bienheureux, aux éditions du Cerf par Bernard Cataneo, très intéressant ça, passionnant. Puis, j'ai pensé à tous ces gens merveilleux qui ont eu la foi et qui l'ont toujours, à toutes ces choses extraordinaires qui s'opèrent dans l'Église. Et je reviens toujours à ce livre magnifique de Jean de Lumeau, qui dit bien à la fin de son immense livre que je vous ai mentionné tout à l'heure, le péché et la peur. Eh bien, il dit la peur est ambiguë. Elle peut être, selon les cas, salutaire ou destructrice. Pourquoi cette propension à dramatiser le message de l'Écriture? C'est l'énorme question à laquelle ce livre a voulu répondre, en considérant le péché comme un objet historiographique. Et au fond, Notre amour pour Dieu devrait recouvrir toute notre vie. Et notre crainte devrait être celle de craindre le péché parce que c'est le rejet de l'amour de Dieu. C'est notre préférence à nous-mêmes, nous nous préférons nous-mêmes, nous préférons nos aises, nos idioties, nos petites folies, au grand amour de Dieu qui nous demande d'être toujours vrais, sincères et fidèles à l'Évangile. C'est pas si compliqué, c'est pas si compliqué. Quand on voit dans les journaux, comme on a vu le 27 décembre, qu'une secte fait craindre un suicide collectif. Pourquoi aller chercher de ce côté-là, dans les sectes, toutes sortes de choses abracadabrantes, quand dans l'Église, on nous propose une Eucharistie où nous rencontrons Dieu et où nous le recevons vivant, ressuscité sous la forme d'un petit morceau de pain et qui s'unit à nous et qui nous permet de nous unir aussi au Père dans la très sainte Trinité par l'Esprit Saint et qui permet de nous unir à tous ceux qui ont communié dans l'Église et qui permet, dans cet amour débordant, de nous unir à tous ceux-mêmes qui ne croient pas et qui cherchent Dieu.